pense à cette phrase, Philippe Solers, qui apparaît dans un de vos portraits de femme. Pauvre femme, de tous les temps d'ailleurs, obligée, sauf exception, de jouer dans ce mauvais film. C'est terrible sur l'expérience féminine.
C'est terrible sur l'histoire. Depuis quand est-ce qu'il y a une marge de réappropriation de soi ou de son propre corps pour les femmes? Enfin, c'est possible. Je ne dis pas qu'elles le font toutes. Non, écoutez, il y a des mutations extraordinaires. Donc, enfin, que ça produit et l'avortement et l'interruption volontaire de grossesse et ensuite, après, la libre disposition de soi ou de soi dans l'existence. Enfin, l'indépendance financière qui est la chose la plus importante pour une femme. Moi, je n'aurais jamais pu vivre ou fréquenter durablement des femmes qui n'auraient pas eu leur liberté financière. Voilà.
Et cette façon aussi qu'a l'écrivain que vous êtes d'en faire vos reines, c'est un terme qui revient souvent dans le livre. Quelque part, ce texte, Portrait de femme, c'est peut-être l'un des plus...
Eh bien, les reines, vous savez, contrairement à la Russie qui s'est dotée d'une impératrice que d'ailleurs Louis XV ne voulait pas reconnaître, finalement, parce que vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de...
Elle était jaloux, oui.
Mais bien sûr, mais aussi, il y a la loi Sully, c'est-à-dire la France ne peut pas avoir de reine. Donc, comme vous savez, c'est pour ça que le jour où il y aura une présidente de la République française, les poules auront des dents. Bon, bref... les reines de France sont des personnages très étranges qu'on oublie au profit des maîtresses en général, qui elles ont fait beaucoup jaser de Pompadour à qui vous voulez. Mais les reines sont méconnues, elles ont été dans l'ombre et souvent c'était des Italiennes et des Autrichiennes. Hein. La dernière reine de France a quand même eu une tête qui est tombée dans la sciure, place de la Concorde. Pensez à elle quand vous passez par là.
Vous l'évoquez dans Portrait de femme aux éditions Flammarion, Philippe Solers. On en parle plus en détail dans quelques instants. Mais d'abord, Mozart, quintette en sol mineur, extrait du premier mouvement par le quatuor Amadeus. Vous êtes sur France Culture, vous écoutez le Carnet d'Or. Vous avez une mère, des sœurs, des tantes. Commencez par elles, en les entraînant de votre côté. Vous évitez tout conflit avec les pères, les frères ou les oncles. Vous évitez de même les affrontements avec les éducateurs ou les professeurs. Vous n'aurez pas à écrire un jour l'enfance d'un chef, mais celle d'un déserteur. En un mot, vous n'êtes pas recrutable. Apprenez à discerner vos alliés et vos ennemis dans le continent féminin. N'oubliez pas, elles sont doubles. Les ennemis peuvent, à l'improviste, devenir des alliés, et même les meilleurs. Les alliés peuvent se transformer en ennemis, les pires. Scrutez, écoutez, devinez. Cette mégère veut être apprivoisée, cette dévote vous regarde avec un drôle d'air. Cette mélancolique s'éclaire en vous, rencontrant. Cette femme savante adore les frivolités, cette précieuse ridicule est perdue pour vous à jamais. Vous avez... un grand maître pour jouer sur le théâtre du monde, Molière. L'amour est médecin. Vous serez médecin dans cette région agitée et sombre. Des femmes médecins vous aideront. Commencez tout de suite. Vous êtes le garçon imprévu, rêveur, dissipé, renfermé, exubérant, terrible, énigmatique. Aucune punition ne vous fait peur. Ils vont dans le mur. Vous sautez par-dessus le mur. La vie est courte. Vous décidez d'en avoir plusieurs. Une page de Portrait de femme, Philippe Solers, votre nouveau livre. Au tout début du livre, vous supposez, c'est assez intéressant qu'il y a un programme tout tracé pour l'homme et que la femme...
Ouais, ce serait au programme, vous voulez dire.
Voilà. Et que la femme, ce serait une faille.
Je conseille aux hommes de prendre conscience de la fausseté dans laquelle on les fait vivre, qui finit souvent, d'ailleurs, horreur, par un cercueil décoré avec un coussin sous la pluie, n'est-ce pas? Voilà. C'est ce qu'il peut y avoir de plus effroyable avec un militaire qui dit qu'il est fier de pouvoir célébrer ce jeune soldat qui est mort, les armes à la main.
Alors vous dites dans ce programme...
Ça dépend des soldats quand même, oui. Cher Philippe Solers. Oui, oui. Ça dépend des soldats.
Ouais. Ça dépend des soldats. Ça dépend des guerres. Moi, je suis contre la mort célébrée comme une chose héroïque.
Vous dites à un moment donné, il y a une faille, un angle... Ah oui. Qui s'appelle femme.
Oui, bien sûr.
Une phrase forte.
Ben oui, parce que c'est une question de discernement, un peu de discernement des esprits, des corps, de l'humour, de l'ironie, des mensonges. Les femmes ont été très obligées de dissimuler, de mentir encore.
Mais ça fait,
donc il faut savoir comment elles mentent, comment elles dissimulent, comment elles ne disent pas la vérité. Voilà. Une de mes amies m'a dit un jour, je lui ai dit, qu'est-ce qui vous paraît le plus érotique? Enfin, elle m'a répondu, ça m'a beaucoup plu, ça. Elle m'a répondu « mentir ». Ah, c'est beau.
Alors en fait, votre livre est beaucoup moins misogyne que qu'on ne le croit.
Pas du tout, au contraire.
Non. Non, mais vous, c'est-à-dire que moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est que...
Il est contre les hommes et pour les femmes.
Voilà, c'est ça. Et vous dites d'ailleurs que tous les moments qui s'écartent de cette narration toute tracée pour la destinée de l'homme, tous les moments de liberté et de créativité, ils sont liés aux femmes.
Oui, pour moi, oui. Je vous parle de ma vie la plus intime, la plus constante, la plus concrète, et ce sont des femmes très concrètes dont je fais le portrait, et qui m'ont enchanté, que ce soit dans mon enfance, que ce soit le basque espagnol qui a fait mon premier roman. Je parle très bien l'espagnol grâce à elle, y compris l'argot un peu sexuel. Voilà. Donc, et puis après, il y a eu ma femme que j'adore, on est mariés depuis 40 ans. C'est intéressant d'avoir des vies compliquées. J'ajoute une chose, c'est que quand même la fréquence des étrangères dans ma vie est assez considérable. Voilà.
Est-ce que ça a quelque chose à voir avec la langue, avec l'expérience de la langue, de la poésie?
Oui, je crois. L'autre est davantage autre, sauf exception. Hein, les Françaises, absolument magnifiques. Mais il y a beaucoup d'étrangères.
Ce qui est intéressant, c'est que chaque portrait de femme vraiment est lié dans ce livre à l'expérience littéraire, et ça commence dès le début avec la mère.
Pas forcément, mais ça peut être le cas.
C'est assez impressionnant, quand même.
Oui, ma mère, alors je la peins en effet sur son canapé.
La tante qui aime Dostoïevski,
elle aime Proust. Alors je me dis, qu'est-ce que c'est que ce Marcel Proust qu'elle a l'air, oui, Nicolette, voilà, c'est des gens, il y avait une bibliothèque.
Est-ce que ça veut dire que la vocation de l'écriture, elle vous vient des femmes?
Je pense que oui, puisque en les observant, j'ai compris que leurs mensonges étaient plus vrais que ce qui se donnait comme vérité. Ce qui se donnait comme vérité, sociale ou brute, comme ça, violente en somme, d'une certaine façon. Hein, je les écoutais dans leur dissimulation. Et comme elles étaient c'est un milieu bourgeois, heureusement à Bordeaux, figurez-vous, on a l'art de vivre, et comme ces braves gens étaient tout à fait anglophiles, donc il y avait une sorte d'innocence absolue. Deux frères qui vivent avec deux sœurs, qui épousent deux sœurs, qui vivent dans deux maisons symétriques avec un grand jardin. L'incestuosité, ou l'endogamie si vous préférez, vous est présentée à chaque instant. Il faudrait être absolument abruti, comme d'ailleurs les autres enfants, pour ne pas attirer l'attention de quelqu'un qui, quand même, veut s'intéresser à la vérité.
Si on doit retenir quelques-uns de ces portraits, peut-être les plus belles pages sont celles que vous consacrez à Dominique et à
Dominique
Julien.
Dominique Rollin, oui, ou à Julien, oui.
Et Dominique d'abord, Dominique Rollin, une déesse pour vous citer, la plus belle femme jamais rencontrée.
Ben oui, qu'est-ce que vous laissez comme ça? Je note.
Elle est décédée récemment en mai dernier. Est-ce que le projet de ce livre, il a à voir avec...
Absolument, j'avais des notes, je pensais le faire, mais ça a accéléré le processus. C'était l'écriture de ce livre ou alors une dépression profonde. J'ai choisi l'écriture de ce livre. Et comme il est assez enlevé, je crois, j'espère, vous voyez que derrière, c'est vraiment une guérison rapide d'une dépression qui aurait pu être sévère.
Vous dites qu'il est assez enlevé. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des passages bouleversants, vous vous en sortez quelque part par une pirouette. Vous dégainez une pirouette.
Oui, sinon je fais un livre romantique et moins romantique que moi, on meurt. Hein, c'est pas du tout. Ma musique, la musique que je vous ai demandé, vous avez la gentillesse d'évoquer, c'est une musique de Mozart et tragique, incisive. Mais pas romantique.
Est-ce que c'est pas une forme de pudeur aussi de votre part?
Mais écoutez, on est romantique ou on est sentimental ou on est sensible. Les gens très sensibles ne sont jamais sentimentaux.
En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a un dialogue, donc vous vous dites enlever, un dialogue très ludique, en tout cas avec le lecteur, lecteur que vous interpellez, que vous forcez à s'interroger. C'est important, cette dimension conversationnelle avec le lecteur, cette, ce dialogue constant.
Je crois que c'est le dialogue entre soi et soi qui se qui fait que le lecteur est convoqué comme une identité supplémentaire. Donc il joue le jeu, il joue pas le jeu. S'il veut voir un film, bah, par exemple, Mackin s'en tire parce que, bien entendu, il écrit un livre qui est l'histoire aussi de la mise en cinéma, de ce qui pourrait arriver dans une époque où, en effet, sans aller vers, sans, si on ne s'occupe pas de la difficulté du cinéma par rapport au livre, bon, voilà. Donc, on attrape le lecteur et on lui parle. S'il est sourd, évidemment, c'est raté.
Vous espérez, André Mackin, que vos lecteurs ne sont pas sourds, évidemment.
Ben, j'ai un bon exemple. Alors, la personne de notre cher Philippe Solers, qui a réagi de deux façons. Il a évoqué la philosophie et l'amour. Et il a parlé de ce cœur bas de Catherine. La formule me gêne un peu. Vous savez, dans la philosophie arabe, il y a cette définition de deux âmes, une âme supérieure et un nafs. Nafs, en arabe, c'est une âme basse. Une âme basse, donc les instincts, les pulsions, etc. Mais je ne pense pas que ces pulsions et ces bas instincts prenaient le dessus chez Catherine. Mais c'est une femme dessus, elle est doublement dessus. Elle est dessus par les hommes. Elle a été trahie par les hommes. Prenez Saltykov, prince. Prenez le prince Poniatowski, le comte Orlov, qui l'a trahi, mais de façon hideuse. Et un jour, quand Potiomkin lui a reproché d'avoir une quinzaine d'amants déjà dans son actif, il a dit « Mais non, si Orlov ne m'a joué ce sale tour, je ne l'aurais jamais quitté. Je serais resté toute ma vie avec cet homme parce que je l'aimais. » On oublie parfois, voyez-vous, que derrière cette obsession sexuelle que vous évoquez, érotique, avec cette alcôve...
Oui, c'est militaire, quoi, disons.
Oui. Voilà, derrière cette bassesse du cœur, il y a quand même une femme blessée. Elle a été blessée par Diderot, par Voltaire, spirituellement, intellectuellement, mais physiquement...
Et par la Révolution française. Parce que lorsque la Révolution éclate, elle meurt en 1796, là, elle déplace le buste
de Voltaire. Elle voit la terreur, et ses conséquences.
Donc les Lumières conduisent à la Révolution.
C'est à tous les trois que je vais m'adresser maintenant, André Mackin, Philippe Solers et Julie Wolkenstein. Il nous reste quelques instants avant de tourner cette page du carnet d'or. On va terminer comme on a commencé, sauf qu'au lieu de mots, je vous décris un portrait représenté dans le roman de Julie Wolkenstein. Je suis un peu embêté parce que vous en avez déjà un peu parlé. Page 65, le titre de ce tableau de Joseph Désiré Court qu'on trouve au musée des Beaux-Arts de Rouen, c'est Rigolette cherchant à se distraire en l'absence de Germain. Une femme assise sur un fauteuil, un foulard sur la tête, elle est en train de coudre, mais elle regarde ailleurs. Il y a un petit oiseau au-dessus d'elle. C'est un personnage littéraire, Rigolette, vous l'avez dit, un personnage secondaire des Mystères de Paris, une grisette chez Eugène Sue. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce qui vous a inspiré dans ce tableau?
Là, c'est typiquement un hasard qui n'est absolument pas le résultat d'une enquête sérieuse. C'est que j'ai trouvé un portrait, une photo d'un portrait dans les documents que j'avais, de la mère de mon personnage, cette femme qui s'est vraisemblablement prostituée avant son mariage, enfin le mariage qui a eu lieu après la naissance de sa fille. Et ce portrait, cette photo du portrait que j'avais, me faisait penser très fortement à la couverture de mon exemplaire de Madame Bovary. Et du coup, voilà le genre d'enquête que j'ai fait. Je suis allée regarder d'où venait ce tableau qui illustrait le folio, c'est peut-être plus le même maintenant, dans les années 80, de Madame Bovary. J'ai retrouvé la trace de ce tableau de Joseph Désiré Court et découvert que le personnage de Rigolette que ce tableau représente est précisément une prostituée. C'est-à-dire que mon intuition, qui était juste liée à une ressemblance entre le véritable portrait de mon arrière-arrière-grand-mère et cette image qui avait accompagné ma lecture de Flaubert quand j'étais adolescente, au fond, il y avait quelque chose qui réellement reliait ces deux personnages.
C'est une coïncidence, mais c'est aussi peut-être une hypothèse que la littérature...
C'est ce que je vous disais tout à l'heure, je pense que oui, dans mon expérience, c'est toujours le roman qui m'a servi de moyens de connaissance et d'accès à la vérité, comme accès à la vérité, comme lectrice d'abord et peut-être aussi comme écrivain. Lectrice d'abord et peut-être aussi comme écrivain.